et qu'il y en a eu des plaintes, des centaines de plaintes contre le réseau Express Vélo puis les voies actives sécuritaires, là, tout ce qui touche là, les aménagements, vélo, piétons et tout le reste par la ville de Montréal. Là. Alors, la nature des plaintes, je vous donne des exemples. Les gens se sont plaints de l'utilité réelle, de la perte d'espace, des stationnements, l'absence de consultation, lacunes en matière d'information, l'enjeu de sécurité pour les automobilistes, les cyclistes, les piétons, l'impact sur la circulation, l'impact pour les commerçants. Eh, boboy! Fait que là, on va aller rejoindre Maître Nadine Mailloux, Ombudsman de Montréal, qui a signé le rapport. Bonjour, Maître.
Bonjour, M. Drainville.
Et je suis accompagné de Luc Lavoie. Bonjour, Luc.
Salut.
Maître Mailloux, dans votre communiqué, vous dites, les gens se sont plaints, je résumerai en disant, à la fois sur le fond et sur la forme.
Effectivement, M. Drainville, donc cet été, comme vous le savez, là, et vous l'avez bien, très bien dit en introduction, on a eu la concomitance de plusieurs aménagements urbains qui se sont déroulés en même temps. Donc, on avait les voies actives sécuritaires qui étaient une réponse directe, comme vous le savez, au contexte que vous connaissez. On avait le réseau Express Vélo qui était un projet mûrement réfléchi et conceptualisé par la Ville de Montréal depuis plusieurs mois et parfois des années. Mmh. Et on avait les initiatives de certains arrondissements donc qui arrivaient en même temps. Et donc, évidemment, la concomitance de ces projets-là a pu créer une certaine confusion là, chez les Montréalaises et Montréalais. Mmh. Et donc, on a eu environ 300 plaintes à l'Ombudsman de Montréal, dont 240 que nous avons traitées puisque nous avions juridiction sur ces plaintes-là.
OK. Juste un petit peu, Luc.
Oui,
là, vous avez produit un rapport, je l'ai entre les mains, là. C'est très, très, très volumineux. Si je vous demandais de nous résumer en quelques phrases l'essentiel des plaintes, le cœur, là, de tout ce qui a amené ces gens-là là, à dire, là, on n'en peut plus, là.
Alors, il faut savoir, c'est important que je vous précise une chose. Il faut savoir que la prérogative de faire des voies cyclables, de piétonniser une rue, de mettre des rues en voie en sens unique, c'est une prérogative politique. Et comme tous les bureaux d'Ombudsman dans le monde, l'Ombudsman de Montréal n'a pas juridiction sur les décisions politiques. Cela étant dit, à Montréal, nous avons une charte montréalaise des droits et responsabilités, en vertu de laquelle l'Ombudsman a juridiction sur des décisions des conseils municipaux. Et cette charte-là précise plusieurs engagements, dont certains recoupaient les préoccupations qui nous ont été livrées par les Montréalaises et Montréalais dans lorsqu'ils nous ont contactés. Alors, on avait des aspects, pour répondre plus précisément à votre question, oui. Les gens soulevaient des enjeux de sécurité. Je mentionne au passage que nous sommes allés dans chacun des lieux qui nous étaient mentionnés par les gens qui nous appelaient pour vérifier l'état des lieux, et nous sommes allés en vélo, à titre de piéton et en voiture. Nous sommes allés partout. Et d'ailleurs, le rapport que vous décrivez vous-même comme étant volumineux fait état de ça, et on a des photos à l'appui. Donc, la sécurité était un enjeu de préoccupation, touchait évidemment davantage les voies actives sécuritaires puisque celles-ci avaient été faites dans un contexte d'urgence et donc demandaient des corrections là, en temps réel. Et à ce chapitre-là, d'ailleurs, mon bureau a immédiatement instauré, au tout début de l'enquête, là, on s'est placé en mode, de communication en temps réel avec la ville pour que, lorsque les gens nous communiquaient des préoccupations, on puisse immédiatement alerter la ville et que les correctifs ou l'analyse des choses qui nous étaient
Oui, mais Maître Mailloux, vous me parlez. Oui, mais je comprends. Oui. Vous me parlez du processus. Luc, vas-y avec ta question.
Ben moi, je voulais simplement demander, Madame Mailloux, est-ce que c'est inhabituel de recevoir 300 plaintes? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive avec d'autres situations dans la municipalité?
On a eu des dossiers systémiques dans le passé. Comprenez que je suis entrée en poste, moi, le 3 août dernier, mais le bureau existe depuis 17 ans. Il y a eu des dossiers systémiques, donc des dossiers où on a plusieurs plaintes pour un même sujet, mais celui-ci est le plus gros volume de plaintes qu'on a eu là, pour un dossier systémique.
OK. Puis mettons, là, je vous repose la question.
Oui.
Si la ville devait refaire ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle devrait changer?
Exact.
Dans le fond, c'est vos recommandations, là.
Oui, c'est ça. Alors, nos recommandations portent, et j'y venais donc, sur sécurité, prendre en compte toujours, même en contexte d'urgence, parce que la ville le fait généralement dans ses projets de longue échéance, mais même en contexte d'urgence, l'accessibilité universelle doit de façon primordiale être prise en compte.
Ça veut dire que
nous, ce qu'on recommande, entre autres dans notre rapport, c'est d'avoir toujours en main un plan de l'ensemble des places réservées aux détenteurs de vignettes, de places réservées pour personnes handicapées, que les débarcadères soient également consignés dans ce plan-là. Donc, qu'on ait ça en tête et qu'on ait ça, en fait, comme référence. Et donc, que même quand on est obligé d'installer des projets en mode urgence, comme c'était le cas pour les voies actives sécuritaires, on s'assure qu'en amont, toutes les places pour personnes handicapées soient immédiatement, soient toujours maintenues, finalement, qu'il n'y ait pas de bris de service, si vous voulez. Donc, on touche à l'accessibilité universelle parce que c'est un engagement charte, donc, qui D'accord. nous donnait juridiction. D'accord. On a aussi l'information et la communication qui a été faite aux citoyens et citoyennes.
Okay, dites-le, donc, là, ils ont été particulièrement poches au niveau de l'information, la Ville, dans tous ces projets-là. Ça revient constamment dans votre rapport, là.
Ce qu'on dit dans notre rapport, c'est que même en contexte d'urgence, toujours en contexte d'urgence, l'information et la communication qu'on fait aux citoyennes et citoyens, c'est primordial. Donc, les gens doivent disposer d'une information claire, précise et en temps utile. Donc, au préalable, bien avant les projets, de façon à pouvoir se préparer.
Ce qui n'a pas été le cas, Maître Mayou. Dites-les ce qui n'a pas été le cas.
Dans le cas des voies actives sécuritaires, c'est quelque chose qui a effectivement présenté des lacunes.
Mais dites-moi, vous avez donc vu tous les lieux. Vous avez été comme piéton, piétonne, comme cycliste, comme automobiliste, bon, tout ça.
Exact.
Et vous êtes une citoyenne de Montréal. Vu que vous avez eu, bon, cette exposition, vous avez tout vu ça, là. C'est quoi votre sentiment face à tout ça? Vraiment, là, tu sais, parlez-moi pas du processus, là. C'est quoi, comment vous avez senti tout ça?
Ce qu'on a fait, puis je comprends là, votre question par rapport au processus. Moi, mon rôle, là, Monsieur Lavoie, c'est je suis l'ombudsman de Montréal et j'adresse, je me penche sur les préoccupations des Montréalaises et Montréalais. Ok. Alors, effectivement, on s'est rendu sur place pour être sûr de refléter correctement les problématiques et aussi pour s'assurer de les régler rapidement.
Madame Mayou, je suis un peu comme mon collègue Bernard, vous êtes toujours dans le processus, dites-nous donc le fond de votre pensée, là. Vous me dites en tant que ombudsman, je dois faire ci, puis ça, on est au courant, on connaît votre mandat, mais vous avez vu, vous aviez pas grand monde qui a tout vu ça, là. Vous avez vu, c'est quoi votre sentiment quand vous avez vu tout ça?
Les conclusions de notre rapport sont à l'effet que même en contexte d'urgence, l'accessibilité universelle, la sécurité et l'information et les communications doivent absolument primer. Ça ne peut pas être escamoté.
Est-ce que vous avez eu un bel accueil à la Ville en terminant? Est-ce que vous pensez qu'ils vont mettre en pratique vos recommandations?
On a eu une collaboration excellente de la part de la Ville du début de l'enquête et on ressent une grande ouverture là, aux recommandations qu'on a faites dans le rapport.
Oui.
Pouvez-vous agir à titre préventif?
C'est ce qu'on fait. Monsieur Lavoie, je vous encourage à regarder la liste de contrôle. On a essayé de faire œuvre utile avec ce rapport-là pour qu'il vive, pour qu'il serve aux Montréalais. Et la liste de contrôle qu'on a mis dans le rapport, qui présente une soixantaine d'items, et dans le fond, le résumé de toutes les choses que la Ville doit s'assurer de considérer, même en contexte d'urgence. Donc, dans l'avenir, et la Ville nous a accueilli cette suggestion-là de façon favorable. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti dans notre enquête. Bon. Les considérations qu'on a dans cette liste de contrôle-là vont servir à s'assurer que des situations comme ce qu'on a vécu cet été ne se reproduisent pas.
Très bien, Maître Nadine Mayou, ombudsman de Montréal. Écoutez, on compte sur vous pour faire le suivi. Et puis, on va espérer que ça va servir à quelque chose, ce beau rapport. À la prochaine.
Merci, M. Drainville.
Au revoir.
Luc, on se reparle un peu plus tard. Après la pause, François Marquis va être ici. Il va nous parler des dilemmes moraux auxquels sont confrontés les médecins dans la foulée de cette histoire aux États-Unis d'un médecin juif qui a soigné un patient COVID qui était décoré de toutes sortes de tatouages nazis. Imaginez-vous. As-tu le goût de le soigner? Puis tu le soignes. Ça fait partie de ton travail, même si tu sais ce qu'il pense de toi dans un instant.